Ellis Island. D'après Ellis Island, écrit par Georges Perec pour le film Récit d'Ellis Island, histoire d'errance et d'espoir, réalisé avec Robert Bobert. Avec des extraits de America America d'Elia Kazan, Le Parrain deuxième partie de Mario Puzo et Francis Ford Coppola, et d'un entretien avec James Gray au sujet de son film The Immigrant. Adaptation et réalisation, Volodia Serre.
Notre pays, à nous, c'est ce maigre rivage où nous voici jetés.
L'étoile du Nord apportera des ciels clairs. Mais avant qu'elle n'apparaisse sur la mer, telle une voile, je deviendrai une vague et un feu pour vous embrasser, terres inconnues. Et toi, ma patrie perdue au loin, tu seras une caresse et une blessure quand le jour se lève sur un autre pays.
America, America de Elia Kazan. Pour fuir les persécutions turques, Stavros le Grec et Oannes l'Arménien ont surmonté de nombreuses épreuves avant de pouvoir monter dans un bateau à destination des États-Unis. Au terme d'une traversée difficile, ils aperçoivent enfin l'Amérique.
Des mouettes criardes volaient autour du mât du navire. Au loin, émergeant de la brume, la côte de Long Island apparaît. Oannes, à la proue, se retourne et appelle « Stavros ! Stavros !» Mais Stavros n'est pas là. Les passagers du pont se précipitent à l'avant. Des têtes surgissent au hublot. Ces gens sont très pauvres et viennent de tous les pays méditerranéens. Ils portent encore leurs vêtements nationaux et tous leurs biens tiennent dans des baluchons qui ne les quittent pas. Des Italiens, des Roumains, des Albanais, des Russes, des Serbes, des Croates, des Syriens, des Juifs orthodoxes barbus, des fanatiques, pas de femmes, parfois un enfant avec un chiffon autour du cou.
Ellis Island de Georges Perec. Chapitre 1, l'île des larmes.
À partir de la première moitié du 19e siècle, un formidable espoir secoue l'Europe. Pour tous les peuples écrasés, opprimés, oppressés, asservis, massacrés, pour toutes les classes exploitées, affamées, ravagées par les épidémies, décimées par des années de disette et de famine, une terre promise se mit à exister. L'Amérique. Une terre vierge ouverte à tous. Une terre libre et généreuse, où les damnés du vieux continent pourront devenir les pionniers d'un nouveau monde. Les bâtisseurs d'une société sans injustice et sans préjugés. Pour les paysans irlandais, dont les récoltes étaient dévastées, pour les libéraux allemands traqués après 1848, pour les nationalistes polonais écrasés en 1830, pour les arméniens, pour les grecs, pour les turcs, pour tous les juifs de Russie et d'Autriche-Hongrie, pour les Italiens du Sud qui mouraient par centaines de milliers de choléra et de misère, l'Amérique devint le symbole de la vie nouvelle, de la chance enfin donnée. Et c'est par dizaines de millions, par familles entières, par villages entiers que de Hambourg ou de Brême, du Havre, de Naples ou de Liverpool, les immigrants s'embarquèrent pour ce voyage sans retour. Pendant plusieurs dizaines d'années, l'ultime étape de cet exode sans précédent dans l'histoire de l'humanité fut, au terme d'une traversée le plus souvent effectuée dans des conditions épouvantables, un petit îlot nommé Ellis Island, où les services du Bureau fédéral de l'immigration avaient installé leur centre d'accueil. Ainsi, sur cet étroit banc de sable à l'embouchure de l'Hudson, à quelques encablures de la statue de la Liberté, alors toute récente, se sont rassemblés pour un temps tous ceux qui, depuis, ont fait la nation américaine. Pratiquement libre jusque vers 1875, l'entrée des étrangers sur le sol des États-Unis fut progressivement soumise à des mesures restrictives. D'abord élaborées et appliquées à l'échelon local, autorités municipales et portuaires, ensuite regroupées au sein d'un secrétariat à l'immigration dépendant du gouvernement fédéral. Ouvert en 1892, le centre d'accueil d'Ellis Island marque la fin d'une émigration quasi sauvage et l'avènement d'une émigration officialisée, institutionnalisée et, pour ainsi dire, industrielle. De 1892 à 1924, près de 16 millions de personnes passeront par Ellis Island, à raison de 5 à 10 000 par jour. La plupart n'y séjourneront que quelques heures, 2 à 3 % seulement seront refoulés. En somme, Ellis Island ne sera rien d'autre qu'une usine à fabriquer des Américains. Une usine à transformer des émigrants en immigrants. Une usine à l'américaine, aussi rapide et efficace qu'une charcuterie de Chicago. À un bout de la chaîne, on met un Irlandais, un Juif d'Ukraine ou un Italien dépouille. À l'autre bout, après inspection des yeux, inspection des poches, vaccination, désinfection, il en sort un Américain. Mais en même temps, au fil des années, les conditions d'admission deviennent de plus en plus strictes. Petit à petit se referme la Golden Door de cette Amérique fabuleuse où les dindes tombent toutes rôties dans les assiettes, où les rues sont pavées d'or, où la terre appartient à tous. En fait, à partir de 1914, l'émigration commence à s'arrêter. D'abord à cause de la guerre, ensuite, à cause d'une série de mesures discriminatives, qualitatives, Literacy Act, et quantitatives, quotas, interdisant pratiquement l'entrée des États-Unis à ces rebuts misérables et à ces masses entassées que, selon Emma Lazarus, la statue de la liberté invite à venir. En 1924, les formalités d'immigration seront confiées au consulat américain en Europe et Ellis Island ne sera plus qu'un centre de détention pour les émigrants en situation irrégulière. Pendant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, Ellis Island, allant jusqu'au bout de sa vocation implicite, deviendra une prison pour les individus soupçonnés d'activités anti-américaines, fascistes italiens, allemands pro-nazis, communistes ou présumés tels. En 1954, Ellis Island sera définitivement fermé. C'est aujourd'hui un monument national, comme le mont Rushmore, l'Old Faithful et la statue de Bartholdi, administré par des rangers coiffés de chapeaux scouts qui le font visiter 6 mois par an, 4 fois par jour. God bless America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from above. Tous les émigrants n'étaient pas obligés de passer par Ellis Island. Ceux qui avaient suffisamment d'argent pour voyager en première ou en deuxième classe étaient rapidement inspectés à bord par un médecin et un officier d'état civil et débarquaient sans problème. Le gouvernement fédéral estimait que ces émigrants auraient de quoi subvenir à leurs besoins et ne risqueraient pas d'être à la charge de l'État. Les émigrants qui devaient passer par Ellis étaient ceux qui voyageaient en troisième classe, c'est-à-dire dans l'entrepont, en fait à fond de cale, au-dessous de la ligne de flottaison, dans de grands dortoirs non seulement sans fenêtres, mais pratiquement sans aération et sans lumière, où 2000 passagers s'entassaient sur des paillasses superposées. Le voyage coûtait $10 dans les années 1880 et $35 après la guerre de 1914. Il durait environ 3 semaines. La nourriture consistait en pommes de terre et en harengs. Toute une série de formalités avait lieu au cours de la traversée. Elles étaient à la charge des compagnies de navigation qui étaient en quelque sorte responsables des passagers qu'elles embarquaient, puisqu'elles devaient payer les frais de séjour des émigrants retenus sur Ellis Island et, en cas de refoulement, assumer le retour en Europe des émigrants. Ces formalités consistaient en une visite médicale, généralement bâclée, des vaccinations, des désinfections et l'établissement d'une fiche signalétique où étaient consignés divers renseignements concernant les migrants. Identité, origine, destination, ressources, antécédents judiciaires, tuteurs aux États-Unis, etc. Sur Ellis Island même, les formalités d'inspection duraient, dans le meilleur des cas, de 3 à 5 heures. Les arrivants subissaient d'abord une inspection médicale. Tout individu estimé suspect était retenu et soumis à une visite médicale beaucoup plus approfondie. Plusieurs maladies contagieuses entraînaient automatiquement le refoulement, en particulier le trachome, la teigne et la tuberculose. Les émigrants qui passaient sans encombre cette inspection étaient alors appelés, au terme d'une attente plus ou moins longue, devant des bureaux, derrière lesquels siégeaient un inspecteur et un interprète. Le célèbre maire de New York, Fiorello LaGuardia, fut longtemps interprète de yiddish et d'italien sur Ellis Island. L'inspecteur disposait d'environ 2 minutes pour décider si, oui ou non, l'émigrant avait le droit d'entrer aux États-Unis et prenait sa décision après lui avoir posé une série de 29 questions.
Comment vous appelez-vous ?
D'où venez-vous ?
Pourquoi venez-vous aux États-Unis ?
Quel âge avez-vous ? Combien d'argent avez-vous ?
Où avez-vous eu cet argent ?
Montrez-le-moi.
Qui a payé votre traversée ?
Avez-vous signé en Europe un contrat pour venir travailler ici ?
Avez-vous des amis ici ?
Avez-vous de la famille ici ?
Quelqu'un peut-il se porter garant de vous ?
Quel est votre métier ?
Êtes-vous anarchiste ?
Etc. Si le nouvel arrivant répondait d'une manière que l'inspecteur jugeait satisfaisante, l'inspecteur tamponnait son visa et le laissait partir après lui avoir souhaité la bienvenue. « Welcome to America ». S'il y avait le moindre problème, il écrivait sur sa feuille « SI », ce qui signifiait « Special Inquiry », inspection spéciale. Et l'arrivant était convoqué, au terme d'une nouvelle attente, devant une commission composée de 3 inspecteurs, d'un sténographe et d'un interprète qui soumettait le candidat à l'immigration à un interrogatoire beaucoup plus poussé. En 1917, en dépit du veto du président Wilson, le Congrès vota le Literacy Act et exigea des candidats à l'immigration qu'ils sachent lire et écrire dans leur langue d'origine et qu'ils soient soumis à divers tests d'intelligence. Ces mesures, en même temps que l'application de quotas défavorables aux nouveaux émigrants, ceux qui venaient d'Europe de l'Est, de Russie et d'Italie, par opposition à ceux qui, dans les 3 premiers quarts du 19e siècle, étaient venus des pays scandinaves, d'Allemagne, de Hollande, d'Angleterre et d'Irlande, rendirent les formalités d'admission beaucoup plus longues et d'année en année beaucoup plus difficiles. La plupart des inspecteurs faisaient consciencieusement leur travail et s'efforçaient, avec l'aide des interprètes, d'obtenir des nouveaux arrivants des renseignements corrects. Un grand nombre était d'origine irlandaise et peu habitué à la graphie et à la consonance des noms d'Europe centrale, de Russie, de Grèce et de Turquie. Par ailleurs, beaucoup d'émigrants souhaitaient avoir des noms qui fassent américains. De là vient que d'innombrables histoires de changement de nom eurent lieu à Ellis Island. Un homme venu de Berlin fut nommé Berliner. Un autre prénommé Vladimir reçut comme prénom Walter. Un autre prénommé Adam eut pour nom Adams. Un Skizertsky devint Sanders, un Goldenburg devint Goldberg, tandis qu'un Gold devenait Goldstein. On conseilla à un vieux juif russe de se choisir un nom bien américain, que les autorités d'état civil n'auraient pas de mal à transcrire. Il demanda conseil à un employé de la salle des bagages qui lui proposa Rockefeller. Le vieux juif répéta plusieurs fois de suite « Rockefeller, Rockefeller », pour être sûr de ne pas l'oublier. Mais lorsque, plusieurs heures plus tard, l'officier d'état civil lui demanda son nom, il l'avait oublié et répondit en yiddish « Schon vergessen, j'ai déjà oublié ». Et c'est ainsi qu'il fut inscrit sous le nom bien américain de John Ferguson. Cette histoire est peut-être trop belle pour être vraie, mais il importe peu au fond qu'elle soit vraie ou fausse. Pour des émigrants avides d'Amérique, changer de nom pouvait être considéré comme un bienfait. Pour leurs petits-enfants, c'est aujourd'hui différent. On a noté qu'en 1976, année du bicentenaire, plusieurs dizaines de Smiths d'origine polonaise ont demandé à s'appeler à nouveau Kowalski. Kowalski et Smith signifiant tous deux « forgerons ». 2% des migrants seulement furent refoulés d'Ellis Island. Cela représente pourtant 250 000 personnes. Et de 1892 à 1924, il y eut 3000 suicides sur Ellis Island.
Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Κοιμάμαι στο χαλίκι, χορτένα από βρυσιά. Και με έχει σαν σκουλίκι του κόσμου η μπαπεσιά.
Αμερικά, Αμερικά, de Ilia Kazan. Ioannis, l'Arménien, est tombé malade durant la traversée. Il a décidé de se sacrifier et s'est jeté à l'eau pour permettre à son ami grec Stavros, recherché par la police, de prendre son identité au sein du groupe de travailleurs réunis par un certain monsieur Agnostis.
Dans le hangar réservé aux immigrants à Ellis Island, trois immenses files de gens s'allongent devant trois bureaux. Les huit cireurs, sous la conduite de monsieur Agnostis, arrivent à l'un d'eux. Stavros porte son chapeau de paille. Monsieur Agnostis a des papiers à la main. Il les présente aux fonctionnaires de l'immigration. Celui-ci connaît Agnostis de longue date. Le fonctionnaire. Qui nous amenez-vous? Huit autres gamins? Il y en a donc toujours en réserve? Comment vont les petits esclaves? Monsieur Agnostis rit nerveusement. Les garçons ne sont pas rassurés. Le fonctionnaire. Tous morts de peur! Il se tourne vers son collègue. Jack, qui était ce garçon? Un grec que nous recherchions? Le regard fiévreux de Stavros ne perd pas un détail de la scène. Monsieur Agnostis se baisse, feignant de renouer son lacet. Il a dissimulé dans sa paume un billet de 10 dollars et se prépare à le glisser vers le soulier du fonctionnaire qui se soulève imperceptiblement du sol. Stavros ne perd pas des yeux le billet de 10 dollars et le pied du fonctionnaire. Le fonctionnaire, affectant d'écorcher le nom de Stavros. Stavros Topouzoglou, l'un de vous s'appelle-t-il ainsi ? Monsieur Agnostis, ce garçon est mort hier soir. Le fonctionnaire, dévisageant Stavros. Et toi, quel est ton nom? Monsieur Agnostis. Ioannis. Le fonctionnaire. Pas vous, toujours vous, il sait parler, non? Quel est ton nom? Stavros voit soudain où ils veulent en venir. Il se hâte de répondre. Ioannis Kardashian. Le fonctionnaire. Tu veux devenir américain? Monsieur Agnostis. Ah oui, monsieur. Il veut, monsieur. Le fonctionnaire. Eh bien, la première chose à faire, c'est de changer de nom. Tu veux un nom américain, mon garçon? Monsieur Agnostis fait signe à Stavros d'accepter, mais celui-ci ne comprend pas. Il répète avec véhémence. Ioannis Kardashian. Le fonctionnaire. Je sais, je sais. Stavros hurlant presque. Ioannis. Le fonctionnaire l'interrompant. Ça suffit. Ioannis, c'est tout ce qu'il te faut ici. Il écrit quelque chose sur un bout de papier qu'il tend à Stavros, le fonctionnaire. « Là, tu sais lire ?» Naturellement, Stavros ne sait pas lire l'anglais. Monsieur Agnostis s'approche et déchiffre. « Ioannis. » Alors il saisit. « Ioannis, Ioannis. » Il se tourne vers Stavros. « Ioannis, Io. » Stavros répétant. « Io. » Monsieur Agnostis. Arnes. Stavros acquiescent. Ioannis. Monsieur Agnostis au fonctionnaire. Parfait. Le fonctionnaire plein de la vanité de l'inventeur. Ça te va? Stavros incline la tête et multiplie les signes d'approbation. Ioannis, Ioannis. Très bien, très bien. Le fonctionnaire. Te voilà mis au monde pour la seconde fois, mon garçon. Tu es rebaptisé et sans avoir rien payé au clergé. Au suivant. Monsieur Agnostis et les huit sireurs se dirigent vers le ferryboat pour Manhattan. Le hangar d'Ellis Island est vide maintenant. Sur le ferryboat. Stavros. Alors, c'est pareil ici. Il a pris l'argent. Monsieur Agnostis. Partout, tout le monde accepte l'argent. Mais tu l'as vu se trémousser quand tu as parlé? Tu l'as vu? Stavros. Oui. Alain, Monsieur Agnostis rit, et soudain Stavros se joint à lui. Pour la première fois depuis qu'il a quitté la maison familiale, il a un accès de franche gaieté spontanée, sans arrière-pensée. Il tombe à genoux et baise le sol. Puis il se relève et pousse un long hurlement de joie.
Ellis Island de Georges Perec. Chapitre 2. Description d'un chemin.
5 millions d'émigrants en provenance d'Italie.
4 millions d'émigrants en provenance d'Irlande.
1 million d'émigrants en provenance de Suède.
6 millions d'émigrants en provenance d'Allemagne.
3 millions d'émigrants en provenance d'Autriche et de Hongrie.
3 500 000 émigrants en provenance de Russie et d'Ukraine.
5 millions d'émigrants en provenance de Grande-Bretagne.
800 000 émigrants en provenance de Norvège.
600 000 émigrants en provenance de Grèce.
400 000 émigrants en provenance de Turquie.
400 000 émigrants en provenance des Pays-Bas.
600 000 émigrants en provenance de France. 300 000 émigrants en provenance du Danemark.
Pendant toutes ces années, les navires à vapeur de la Cunard Line, de la Red Star Line, de l'Anchor Line, de l'Italian Line, de la Hamburg America Line, de la Holland America Line, sillonnèrent l'Atlantique Nord.
Ils partaient de Rotterdam,
de Brême,
de Göteborg,
de Palerme,
d'Istanbul,
de Naples,
d'Anvers,
de Liverpool,
de Lübeck,
de Salonique,
de Bristol,
de Riga,
de Cork,
de Dunkerque,
de Stettin,
de Hambourg,
de Marseille,
de Gênes,
de Danzig,
de Cherbourg,
du Pirée,
de Trieste,
de Londres,
de Fiume,
du Havre,
d'Odessa,
de Tallinn,
de Southampton.
Il s'appelait le Darmstadt,
le Fürstbismarck, le Stadtendamm,
le Kaiser Wilhelm, le Königin Luise,
le Westernland, le Penland,
le Bohemia, le Polynesia,
le Princess Irene,
le Princeton, l'Umbria, le Lusitania, l'Adriatique, le Coronia, le Mauretania,
le San Giovanni, le Giuseppe Verdi, le Patricia,
le Duca degli Abruzzi,
le New Amsterdam, le Martha Washington,
le Thuringia, le Titanic, le Lydia, le Susquehanna,
l'Albert Ballin, le Huntington,
le Columbus,
le Reliance,
le Blücher.
Mais la plupart de ceux qui, au terme de leur harassant voyage, découvraient Manhattan émergeant de la brume, savaient que leur épreuve n'était pas tout à fait terminée. Il leur fallait encore passer par Ellis Island, cette île que, dans toutes les langues d'Europe, on a surnommée l'île des larmes.
Tränen-Insel.
Vespuos.
Island of Tears. Isola delle Lagrime.
Tonisiton Zakrium.
Ostrov Slois.
Tränen-Insel.
C'est un petit îlot de 14 hectares, à quelques centaines de mètres de la pointe de Manhattan. Les Indiens l'appelaient l'île aux mouettes et les Hollandais l'île aux huîtres. Son premier propriétaire fut un riche armateur hollandais nommé Poe. Puis un certain capitaine Dyer, receveur des douanes. Puis un nommé Thomas Lloyd. En 1765, un pirate du nom d'Anderson y fut pendu et pendant une dizaine d'années, l'îlot s'appela l'île du gibet. Puis l'homme, qui pour toujours devait lui donner son nom, Samuel Ellis, l'acheta. Il la légua à son petit-fils, qui la revendit à un certain John Berry, lequel la céda à la ville de New York, laquelle la vendit enfin pour 10 000 dollars au gouvernement fédéral. Pendant et après la guerre de sécession, ce fut un dépôt de munitions. Puis, vers 1890, le secrétariat d'État à l'immigration décida d'y construire un centre d'accueil pour remplacer les bâtiments de Castel Garden devenus trop petits. Les bâtiments n'étaient pas tout à fait achevés lorsque le 1er janvier 1892, la première immigrante fut officiellement accueillie à Ellis Island. C'était une jeune Irlandaise de 15 ans, originaire du comté de Cork, nommée Annie Moore. Et on lui remit en guise de bienvenue une pièce d'or de 10 dollars qui vaudrait aujourd'hui environ 1500 francs. Presque 63 ans plus tard, le 12 novembre 1954, le ferry Ellis Island, qui faisait continuellement la navette entre le port de New York et l'île, et que l'on voit encore aujourd'hui à demi sombré près du débarcadère, fit son dernier voyage. Il ne transportait qu'un passager, le dernier immigrant enregistré par les services d'Ellis Island, un marin norvégien. Entre-temps, près de 16 millions d'hommes, de femmes et d'enfants passèrent par Ellis Island, dont plus des trois quarts entre 1892 et 1914. Ces années-là, il arrivait jusqu'à 10 000 personnes par jour. Laissés à l'abandon depuis 1954, les bâtiments d'Ellis Island, que les architectes Barling et Tilton avaient construits dans le style de la Renaissance française, ont été, en 1976, à l'occasion du bicentenaire des États-Unis, classés monuments historiques et rouverts au public. Mais l'immigration vers les États-Unis avait commencé bien avant que ne commence Ellis Island et ne s'est pas terminée avec sa fermeture. Les Mexicains, les Portoricains, les Coréens, les Vietnamiens, les Cambodgiens ont pris la relève.
Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing. Money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and put that in.
Oh, yeah.
C'est le mercredi 31 mai 1978 que nous avons pour la première fois, Robert Bobert et moi, visité Ellis Island. En même temps que nous, il y avait un couple d'une cinquantaine d'années, dont la mère de la femme, une Roumaine qui était passée par Ellis Island, était morte quelque temps auparavant, et une toute jeune femme qui tenait dans ses bras un bébé âgé de quelques jours à peine. Ce n'est jamais, je crois, par hasard que l'on va aujourd'hui visiter Ellis Island. Ceux qui y sont passés n'ont guère eu envie d'y revenir. Leurs enfants ou leurs petits-enfants y retournent pour eux, viennent y chercher une trace. Ce qui fut pour les uns un lieu d'épreuve et d'incertitude est devenu pour les autres un lieu de leur mémoire, un des lieux autour duquel s'articule la relation qui les unit à leur histoire.
Entretien avec James Gray au sujet de son film The Immigrant, sorti en 2013.
Pouvez-vous nous dire, James Gray, à quel point votre film The Immigrant est personnel?
Yes. C'est un film très personnel. Parce qu'il y a de nombreux liens avec ma propre famille. Même s'il n'est pas du tout autobiographique. Mes grands-parents sont venus de Ostropol, une ville qui n'est pas très loin de Kiev. Les parents de ma grand-mère avaient été assassinés au cours d'un pogrom mené par les troupes de l'armée blanche et en 1923, mon grand-père et ma grand-mère sont arrivés aux États-Unis en passant par Ellis Island. Évidemment, j'ai entendu des tas d'histoires sur Ellis Island et je suis devenu un peu obsédé par ça. La première fois que je suis allé, en 1988, c'était avant la restauration de l'île. C'était un peu comme si elle avait été gelée dans le temps. Un lieu hanté, avec des formulaires d'immigration à moitié remplis qui traînaient encore sur le sol. J'ai eu l'impression que l'endroit était habité de fantômes. Les fantômes de toute ma famille. Alors j'ai voulu faire un film qui sera né de ça.
Comment décrire? Comment raconter? Comment regarder? Sous la sécheresse des statistiques officielles, sous le ronronnement rassurant des anecdotes mille fois ressassées par les guides à chapeau scout, sous la mise en place officielle de ces objets quotidiens devenus objets de musée, vestiges rares, choses historiques, images précieuses, sous la tranquillité factice de ces photographies figées une fois pour toutes dans l'évidence trompeuse de leur noir et blanc, comment reconnaître ce lieu ? Restituer ce qu'il fut ? Comment lire ces traces ? Comment aller au-delà, aller derrière, ne pas nous arrêter à ce qui nous est donné à voir, ne pas voir seulement ce que l'on savait d'avance que l'on verrait. Comment saisir ce qui n'est pas montré, ce qui n'a pas été photographié, archivé, restauré, mis en scène. Comment retrouver ce qui était plat, banal, quotidien, ce qui était ordinaire, ce qui se passait tous les jours. Nous avons arpenté des dizaines et des dizaines de couloirs, visité des dizaines et des dizaines de salles.
Des pièces de toutes dimensions.
Des halls.
Des bureaux.
Des chambres.
Des buanderies.
Des toilettes, des cagibis, des débarras.
Et chaque fois, en nous demandant, en essayant de nous représenter ce qui s'y passait.
À quoi ça ressemblait ?
Qui venait là et pourquoi ?
Qui parcourait ces corridors ?
Qui montait ces escaliers ?
Qui attendait sur ces bancs ?
Comment s'écoulaient ces heures et ces jours ? Comment faisaient tous ces gens pour se nourrir, se laver, se coucher, s'habiller ? Cela ne veut rien dire de vouloir faire parler ces images, de les forcer à dire ce qu'elles ne sauraient dire. Au début, on ne peut qu'essayer de nommer les choses, une à une, platement, les énumérer, les dénombrer, de la manière la plus banale possible, de la manière la plus précise possible, en essayant de ne rien oublier. Par exemple, deux grands doubles éviers de faïence blanche, dont l'un est pourvu d'une essoreuse à main, quatre chaises, deux planches à repasser reposant sur de larges pieds de fonte, l'un de base rectangulaire, l'autre de base ovale. L'une supporte un fer électrique, l'autre, encore couverte d'un épais tissu blanchâtre, est munie d'un restant de jeannette, tendu d'un tissu rayé analogue à de la toile à matelas. Trois machines à coudre, dont deux sont encore équipées de leur tête, une singère et une White Rotary. Et, aux deux tiers de la hauteur, deux longues planches vissées dans le carrelage des murs, qui retiennent encore des souvenirs de cordes à linge. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et l'on sait seulement que ce n'était pas ainsi au début du siècle. Mais c'est cela qui nous est donné à voir. Et c'est seulement cela que nous pouvons montrer. Rien ne ressemble plus à un lieu abandonné qu'un autre lieu abandonné. Ce pourrait être n'importe quel hangar, n'importe quelle usine désaffectée, n'importe quel entrepôt déserté, rongé par l'humidité et la rouille. Des docks effondrés, des fabriques où depuis longtemps plus rien ne se fabrique, des remises au rancard, des magasins oubliés envahis par les mauvaises herbes. Mais c'était là, à quelques brasses de New York, tout près de la vie promise. C'était la Golden Door, la Porte d'Or.
La Golden Door.
La Porte d'Or.
La Porte d'Or.
The Golden Door.
The Golden Door.
C'était là, tout près, presque à portée de la main, l'Amérique mille fois rêvée, la terre de liberté où tous les hommes étaient égaux.
Le pays où chacun aurait enfin sa chance.
Le monde neuf.
Le monde libre.
Où une vie nouvelle allait pouvoir commencer.
Mais ce n'était pas encore l'Amérique. Seulement un prolongement du bateau, un débris de la vieille Europe, où rien encore n'était acquis. Où ceux qui étaient partis n'étaient pas encore arrivés. Où ceux qui avaient tout quitté n'avaient encore rien obtenu. Et où il n'y avait rien d'autre à faire qu'à attendre, en espérant que tout se passerait bien.
Que personne ne vous volerait vos bagages.
Ou votre argent.
Que tous vos papiers seraient en règle.
Que les médecins ne vous retiendraient pas.
Que les familles ne seraient pas séparées.
Que quelqu'un viendrait vous chercher. Dans la légende du golem, il est raconté qu'il suffit d'écrire un mot, Emmet, sur le front de la statue d'argile pour qu'elle s'anime et vous obéisse. Et d'en effacer une lettre, la première, pour qu'elle retombe en poussière. Sur Ellis Island aussi, le destin avait la figure d'un alphabet. Des officiers de santé examinaient rapidement les arrivants et traçaient à la craie sur les épaules de ceux qu'ils estimaient suspects une lettre qui désignait la maladie ou l'infirmité qu'ils pensaient avoir décelée.
C, la tuberculose.
E, les yeux.
F, le visage.
H, le cœur.
K, la hernie.
L, la claudication.
SC, le cuir chevelu.
TC, le trachome.
X, la débilité mentale.
Les individus marqués étaient soumis à des examens beaucoup plus minutieux. Ils étaient retenus sur l'île plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines de plus, et parfois refoulés. Une fois de plus, le guide raconte l'arrivée des émigrants, la montée des escaliers, les visites médicales, l'inspection des yeux, les lettres à la craie sur l'épaule des présumés malades, l'attente interminable, les 29 questions posées à toute vitesse. Il parle en marchant de long en large, et les visiteurs le suivent du regard. Ces histoires, ils les connaissent depuis toujours.
Ils savent qu'Irving Berlin s'appelait Isidore Balin quand il arriva à Ellis Island.
Et que Samuel Goldwyn est passé par Ellis Island.
Et Emma Goldman.
Et Ben Shahan.
Et que LaGuardia y fut interprète.
Ils connaissent l'histoire de Sean Ferguson et celle des trois frères qui furent respectivement nommés Appletree, Applebaum et Appleberg. Ce n'est pas pour apprendre quelque chose qu'ils sont venus, mais pour retrouver quelque chose. Partager quelque chose qui leur appartient en propre. Une trace ineffaçable de leur histoire. Quelque chose qui fait partie de leur mémoire commune et qui a façonné au plus profond la conscience qu'ils ont d'être américains. Le reste, on peut seulement essayer de l'imaginer, le déduire de ce qui reste, de ce qui a été conservé, de ce qui a été préservé de la destruction et de l'oubli. Et l'on peut se demander enfin ce que signifiait ce lieu pour tous ceux qui y sont passés. Quelle somme d'espoir, d'attente, de risque, d'enthousiasme, d'énergie était ici rassemblée? Ne pas dire seulement 16 millions d'émigrants sont passés en 30 ans par Ellis Island, mais tenter de se représenter ce que furent ces 16 millions d'histoires individuelles, ces 16 millions d'histoires identiques et différentes, de ces hommes,
de ces femmes et de ces enfants chassés de leur terre natale par la famine ou la misère,
l'oppression politique, raciale ou religieuse,
et quittant tout, leur village, leur famille, leurs amis,
mettant des mois et des années à rassembler l'argent nécessaire au voyage,
et se retrouvant ici, dans une salle si vaste que jamais ils n'avaient osé imaginer qu'il pût y en avoir quelque part d'aussi grande,
alignés en rempart quatre,
attendant leur tour.
Il ne s'agit pas de s'apitoyer, mais de comprendre. Quatre émigrants sur cinq n'ont passé sur Ellis Island que quelques heures. Ce n'était, tout compte fait, qu'une formalité anodine. Le temps de transformer l'émigrant en immigrant, celui qui était parti en celui qui était arrivé. Mais pour chacun de ceux qui défilaient devant les docteurs et les officiers d'état civil, ce qui était en jeu était vital. Ils avaient renoncé à leur passé et à leur histoire. Ils avaient tout abandonné pour tenter de venir vivre ici une vie qu'on ne leur avait pas donné le droit de vivre dans leur pays natal. Et ils étaient désormais en face de l'inexorable. Ce que nous voyons aujourd'hui est une accumulation informe, vestige de transformation, de démolition, de restauration successive. Entassement hétéroclite, amas de grilles, fragments d'échafaudage, tas de vieux projecteurs, des tables, des bureaux, des armoires vestiaires et des classeurs rouillés, des montants de lits, des bouts de bois, des bancs, des rouleaux de revêtement pour toiture, n'importe quoi. Une grande casserole, une passoire, une pompe à incendie, une cafetière, une machine à calculer, un ventilateur, des bocaux, des plateaux de self-service, des tuyaux, une brouette, un reste de diable, des formulaires, un livre de cantiques, des gobelets de carton, une espèce de jeu de loi. Ce n'est pas seulement le temps qui a ravagé Ellis Island, ni l'humidité ni le sel, mais les pillages. Pendant près de 20 ans, l'îlot, désaffecté, à peine gardé, a été systématiquement mise à sac par des revendeurs de ferraille qui venaient y chercher des matériaux d'année en année plus précieux. Le cuivre des robinetteries, le laiton des boutons de porte, le zinc des toitures, le plomb des canalisations, le fer forgé des rampes d'escalier, le bronze des lampadaires et des lustres, tout ce qu'ils pouvaient emporter sur leur barque, laissant pourrir sur place des monceaux de meubles, des piles de matelas et de sommiers rouillés, des amoncellements d'oreillers crevés.
Entretien avec James Gray au sujet de son film The Immigrant, sorti en 2013.
J'avais été choqué de découvrir qu'il n'y avait jamais eu de film tourné à Ellis Island pour ce que c'était. Un centre d'immigration. Kazan avait recréé son décor pour America, America, comme le fait Coppola pour The Godfather Part 2. Mais aucun d'entre eux n'a eu l'opportunité vraiment de tourner sur Ellis Island. Donc j'ai senti que j'avais une chance assez unique et j'ai essayé de rendre tout cela le plus réaliste possible. J'ai lu beaucoup de livres et j'ai regardé bien sûr des tonnes de photographies et aussi cherché dans mes archives familiales. Quand je suis venu à Ellis Island avec mon grand-père, il y avait une femme qui faisait la visite avec nous et elle pleurait. Elle ne parlait pas très bien anglais, mais mon grand-père est allé la voir. Et apparemment, elle et sa sœur avaient été séparées ici. J'ai senti que c'était un bon début pour inventer une histoire.
Pourquoi racontons-nous ces histoires ?
Que sommes-nous venus chercher ici ?
Que sommes-nous venus demander ?
Loin de nous, dans le temps et dans l'espace, ce lieu fait pour nous partie d'une mémoire potentielle, d'une autobiographie probable.
Nos parents ou nos grands-parents auraient pu s'y trouver.
Le hasard, le plus souvent, a fait qu'ils sont ou ne sont pas restés en Pologne.
Ou se sont arrêtés en chemin, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre ou en France.
Ce destin commun n'a pas pris pour chacun de nous la même figure. Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c'est l'errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. C'est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m'impliquent, comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu dépotoir, où des fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à l'appel. Ce qui pour moi se trouve ici, ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces, mais le contraire, quelque chose d'informe, à la limite du disciple. Quelque chose que je peux nommer clôture ou scission ou coupure, et qui est pour moi très intimement et très confusément lié au fait même d'être juif. Je ne sais pas précisément ce que c'est qu'être juif, ce que ça me fait que d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre, qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance. Ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude. Une certitude inquiète, derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable. Celle d'avoir été désigné comme juif, et parce que juif victime, et de ne devoir la vie qu'au hasard et à l'exil. J'aurais pu naître, comme des cousins proches ou lointains, à Haïfa, à Baltimore, à Vancouver. J'aurais pu être argentin, australien, anglais ou suédois. Mais dans l'éventail à peu près illimité de ces possibles, une seule chose m'était précisément interdite. Celle de naître dans le pays de mes ancêtres, à Lubartov ou à Varsovie. et d'y grandir dans la continuité d'une tradition, d'une langue, d'une communauté. Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même. Quelque part, je suis différent. Mais non pas différent des autres, différent des miens. Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent. Je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir. Quelque chose qui était à eux, qui faisait qu'ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leur espoir, ne m'a pas été transmis. Je n'ai pas le sentiment d'avoir oublié, mais celui de n'avoir jamais pu apprendre. C'est en cela que ma démarche est différente de celle de Robert Bobert. Être juif, pour lui, c'est continuer à s'insérer dans une tradition, une langue, une culture, une communauté que ni les siècles de la diaspora, ni le génocide systématique de la solution finale n'ont réussi à définitivement broyer. Être juif, pour lui, c'est avoir reçu, pour le transmettre à son tour, tout un ensemble de coutumes, de manières de manger, de danser, de chanter, des mots, des goûts, des habitudes. Et c'est surtout avoir le sentiment de partager ses gestes et ses rites avec d'autres, au-delà des frontières et des nationalités. Partager ces choses devenues racines, tout en sachant à chaque instant qu'elles sont en même temps fragiles et essentielles, menacées par le temps et par les hommes. Fragments d'oubli et de mémoire, gestes que l'on retrouve sans les avoir jamais vraiment appris, mots qui reviennent, souvenirs de berceuses, photographies précieusement conservées, signes d'appartenance sur lesquels se fonde son enracinement dans l'histoire, sur lesquels se forge son identité, c'est-à-dire ce qui fait qu'il est à la fois lui et identique à l'autre. C'est cette permanence de son histoire, sa résistance, sa ténacité, sa pérennité que Robert Bobert est venu éprouver sur Ellis Island et retrouver sous les traces laissées par ceux qui passèrent ici, sous les témoignages que nous allions en recueillir, l'image du grand-père de sa mère qui quitta en 1900 son village de Pologne pour aller en Amérique mais attrapa le trachome lors de la traversée et fut refoulé. Peut-être les Juifs, peuple sans terre, depuis presque toujours voué à l'exode, à la survie au milieu de cultures différentes de la leur, étaient-ils plus sensibles que d'autres à ce qui était pour eux en jeu ici? Mais Ellis Island n'est pas un lieu réservé aux Juifs. Il appartient à tous ceux que l'intolérance et la misère ont chassés et chassent encore de la terre où ils ont grandi. À l'heure où les boat people continuent d'aller d'île en île, à la recherche de refuges de plus en plus improbables, il aurait pu sembler dérisoire, futile ou sentimentalement complaisant de vouloir encore une fois évoquer ces histoires déjà anciennes. Mais nous avons eu, en le faisant, la certitude d'avoir fait résonner les deux mots qui furent au cœur même de cette longue aventure. Ces deux mots mous, irrépérables, instables et fuyants, qui se renvoient sans cesse leur lumière tremblotante et qui s'appellent l'errance et l'espoir.
Le Parrain, deuxième partie, de Mario Puzo et Francis Ford Coppola. En Sicile, un parrain local a assassiné toute la famille du jeune Vito Andolini qui n'est âgé que de 9 ans. Pour le sauver, des amis sont parvenus à le mettre seul dans un bateau à destination des États-Unis.
Extérieur, navire à vapeur, gros plan sur Vito, âgé de 9 ans, jour. Blotti dans des couvertures sur le pont du navire, il ne dit pas un mot. On commence à entendre, très doucement, la valse, tandis que le plan change, révélant les centaines de familles d'immigrants rassemblées avec tout ce qu'ils possèdent en route vers l'Amérique. Port de New York, jour. Silence. Nous passons devant la Statue de la Liberté. plan sur les immigrants qui se tiennent debout sur le pont en silence. Ils regardent. Vito se tient à leur côté, les yeux écarquillés. La caméra avance vers la statue, puis la dépasse et se dirige vers les magnifiques bâtiments d'Ellis Island. Intérieur, grand hall d'Ellis Island, jour. Les centaines de familles d'immigrants sont assises sur des rangées de bancs dans la grande salle. Diverses lignes peintes au sol mènent aux marches et aux salles de traitement situées au-dessus. Brouhaha de nombreux entretiens menés simultanément, incompréhensibles, dans différentes langues. Le jeune Vito est enveloppé dans un vieux manteau avec une grande étiquette épinglée dessus. Vito Andolini, Corleone, Sicilia. Il se lève, avance dans la file quand plusieurs autres jeunes garçons immigrants, eux aussi mais plus âgés que lui, se précipitent et le repoussent. Il les regarde avec une haine glaciale. Intérieur, salle de traitement, jour. Trois ou quatre entretiens ont lieu en même temps dans la petite salle. Ils se déroulent en anglais. À l'expression du visage de Vito, on se rend compte qu'il ne comprend pas un mot. Le fonctionnaire, en anglais. « Quel est ton nom ?»« Ton nom ?» Vito ne répond pas. Le fonctionnaire retire l'étiquette épinglée sur son manteau et copie son contenu sur le formulaire à l'aide d'une machine à écrire. Le fonctionnaire. Vito Andolini de Corleone. Vito Corleone. Voilà, c'est fait. Allez, par ici. Il passe le formulaire à un autre fonctionnaire. Le nom qui a été inscrit est Vito Corleone. Intérieur, examen médical, jour. Vito est torse nu, tandis que d'autres immigrants attendent. Le docteur vient de terminer son examen. Il hoche la tête, puis inscrit quelque chose sur le formulaire médical. Le médecin. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Vito regarde dans le vide. Tu comprends ? Variole ? Variole ! Le médecin se tourne vers le fonctionnaire de l'immigration. Quarantaine, 3 mois. Extérieur, la statue de la liberté, jour. La caméra commence à reculer lentement et on comprend qu'il s'agit de la vue depuis l'intérieur de la cellule de quarantaine où Vito se tient sur son banc, regardant la statue à travers les barreaux de la fenêtre. Il se détourne et s'assoit dans un coin. Il reste longtemps silencieux. Puis, d'une voix douce et pure, il chante pour lui-même en sicilien.
Avianushi care tu, ma vero saporito.
Lorsqu'à 16 ans, le jeune Karl Rossmann entra dans le port de New York sur le bateau déjà plus lent, la statue de la liberté qu'il observait depuis longtemps lui apparut dans un sursaut de lumière. On eût dit que le bras qui brandissait l'épée s'était levé à l'instant même, et l'air libre soufflait autour de ce grand corps.
Franz Kafka, l'Amérique.
Être émigrant, c'était peut-être très précisément cela. Voir une épée là où le sculpteur a cru, en toute bonne foi, mettre une lampe et ne pas avoir complètement tort. Sur le socle de la statue de la liberté, on a gravé les vers célèbres d'Emma Lazarus.
Give me your tired, your poor.
Donnez-moi ceux qui sont là, ceux qui sont pauvres.
Your huddled masses yearning to breathe free.
Vos masses entassées, assoiffées d'air pur.
The wretched refuse of your teeming shore.
Les rebuts misérables de vos terres surpeuplées.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me.
Envoyez-les-moi. C'est sans patrie, ballotté par la tempête.
I lift my lamp beside the golden door.
Je lève ma lampe près de la porte d'or.
Mais au même moment, toute une série de lois étaient mises en place pour contrôler et un peu plus tard contenir l'afflux des émigrants. Au fil des années, les conditions d'admission devinrent de plus en plus strictes et petit à petit se refermèrent les portes de cette Amérique fabuleuse, de cet Eldorado des temps modernes où, racontait-on aux petits-enfants d'Europe, les rues étaient pavées d'or et la terre si vaste et si généreuse que tout le monde pouvait y trouver sa place.
4 millions d'immigrants sont venus d'Irlande.
400 000 immigrants sont venus de Turquie et d'Arménie.
5 millions d'immigrants sont venus de Sicile et d'Italie.
6 millions d'immigrants sont venus d'Allemagne.
400 000 immigrants sont venus de Hollande.
3 millions d'immigrants sont venus d'Autriche et de Hongrie.
600 000 immigrants sont venus de Grèce.
600 000 immigrants sont venus de Bohême et de Moravie.
3 500 000 immigrants sont venus de Russie et d'Ukraine.
1 million d'immigrants sont venus de Suède.
300 000 immigrants sont venus de Roumanie et de Bulgarie.
Les immigrants qui débarquaient pour la première fois à Battery Park ne tardaient pas à s'apercevoir que ce qu'on leur avait raconté de la merveilleuse Amérique n'était pas tout à fait exact. Peut-être la terre appartenait-elle à tous, mais ceux qui étaient arrivés les premiers s'étaient déjà largement servis. Et il ne leur restait plus à eux qu'à s'entasser à 10 dans les taudis sans fenêtres du Lower East Side et travailler 15 heures par jour. Les dindes ne tombaient pas toutes rôties dans les assiettes et les rues de New York n'étaient pas pavées d'or. En fait, le plus souvent, elles n'étaient pas pavées du tout. Et ils comprenaient alors que c'était précisément pour qu'ils les pavent qu'on les avait fait venir. Et pour creuser les tunnels et les canaux, construire les routes, les ponts, les grands barrages, les voies de chemin de fer, défricher les forêts, exploiter les mines et les carrières, fabriquer les automobiles et les cigares, les carabines et les complets vestons, les chaussures, les chewing-gums, le cornet beef et les savons, et bâtir des gratte-ciel encore plus hauts que ceux qu'ils avaient découverts en arrivant.
C'était Ellis Island, d'après Ellis Island, écrit par Georges Perec, pour le film Récit d'Ellis Island, Histoire d'errance et d'espoir, réalisé avec Robert Boubert. Avec des extraits de America America d'Elia Kazan, Le Parrain, deuxième partie, de Mario Puzo et Francis Ford Coppola, et d'un entretien avec James Gray au sujet de son film The Immigrant. Avec Olivier Balazuc, Florence Banks-Coursimo, Vanessa Bethan, Geoffrey Carré, Olivia Corsini, Gretel Delattre, David Jesselson, Daniel Koenigsberg, Anna Mouglalis, Alexandre Steiger et Mathias Zakar. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Justine Dibling, Céline Schaeffer. Adaptation et réalisation, Volodia Serre. Ellis Island de Georges Perec est publié aux éditions POL. Retrouvez le générique complet sur le site de Radio France.